Réparation, chapitre 3. 3 mois avaient passé, et aux chaleurs suffocantes de l'été, un automne triste succédait. Le sol, dépouillé de son riche manteau de moissons, étalait jusqu'à l'horizon sa surface déserte, nue, au ton roux et desséché. Toute la journée, un soleil blafard avait circulé, presque invisible derrière les vapeurs. Il venait de disparaître tout à fait. L'air était atone, gris, mais de temps en temps, une brusque rafale de vent le secouait. Après avoir, comme d'habitude, établi Isabelle devant ses cahiers, Germaine sortit de la chambre. Elle demeura un instant hésitante dans le large vestibule désert, puis elle le traversa rapidement, descendit les degrés du perron et alla inspecter la route vide. Patiemment, elle resta à son poste d'observation jusqu'à ce qu'elle distinguât enfin sur l'interminable perspective blanche un point noir mouvant. Elle le regarda grandir jusqu'à ce qu'elle eût acquis la certitude qu'elle ne se trompait pas. Puis elle se mit à errer, pensive, au milieu des arbustes déjà jaunis, mais encore chargés de feuilles. Lorsque le bruit des roues devint perceptible à ses oreilles, elle retourna vivement vers l'entrée et y arriva juste au moment où le phaéton franchissait la porte. Elle regarda M. Duplex sauter légèrement à terre et vit le valet de ferme emmener la jument et la voiture. Quand il n'y eut plus de témoins autour d'eux, elle s'approcha et demanda, la voix tremblante, « Tout s'est bien passé ?» Philippe suivait des yeux l'attelage. La jument avait un pas traînant, une allure épuisée. Il héla le valet. « Soignez bien cette bête, Joseph. Je crois que je l'ai trop pressée ce matin. Elle n'en peut plus. Ça se voit. » Germaine renouvela sa question. « Tout s'est bien passé ?»«
Très bien. »
« Il n'a pas eu l'air trop effrayé, trop inquiet ?»«
Pas le moins du monde. » Pendant tout le trajet, il regardait la campagne d'un air indifférent. Il n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Il n'a pas versé une larme et ne m'a chargé pour vous d'aucun message. Après tout ce que vous avez fait pour lui, il me semble pourtant qu'il aurait pu vous faire au moins remercier.
« Ce que j'ai fait pour cet enfant n'était rien, » balbutia Germaine. « Je ne pouvais pas l'aimer comme j'aurais dû. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. » Et elle s'absorba un moment dans ses pensées. Jamais Philippe n'avait saisi la nature du combat qui se livrait en elle depuis si longtemps. Ils étaient arrivés lentement au bas du perron. Avant d'en gravir la première marche, Germaine s'arrêta. « Je voudrais vous demander quelque chose, Philippe. Êtes-vous sûr que cet enfant s'en allait de son plein gré, qu'aucune pression n'a influencé sa décision ? « Qu'il s'est vraiment senti libre. »«
Une pression ? Quelle pression ? Que voulez-vous dire ?»
se récria Philippe vivement.
« Est-ce moi que vous accuseriez aujourd'hui de l'avoir violenté ? Avez-vous déjà oublié ce qu'il nous a dit en revenant de sa folle escapade à la mer ?»«
Non, mais il avait déjà la fièvre. Ensuite, il a été 3 semaines entre la vie et la mort. » Et après sa maladie, je réussissais moins qu'auparavant à deviner ses pensées. En vérité, Philippe, je n'ai pas su discerner son vrai désir. Il y eut un court silence. Philippe reprit.
« L'avez-vous entendu une seule fois revenir sur son engagement depuis sa guérison ?»«
Non, jamais. »
« Alors, pourquoi vous farcir la tête de chimère ?» À présent, surtout qu'il est trop tard pour revenir sur ce qui a été fait. »
Il ajouta sans transition, « Où est Isabelle ?» Comme si le nom de la petite fille suggérait à la jeune femme de nouvelles réflexions à ajouter, elle hésita, mais elle se ravisa et dit simplement, « Elle travaille dans la salle à manger. » Philippe gravit rapidement l'escalier et se dirigea vers la chambre où se trouvait sa fille. Cependant, avant d'entrer, il revint sur ses pas. « Je voudrais être sûre, Germaine, que vous êtes absolument tranquillisée au sujet de ce garçon. Je ne sais jamais clairement ce que vous pensez.
Puis-je être sûr que vous êtes convaincu, comme moi, qu'il s'en allait de son plein gré? Que nous n'avons rien fait, ni l'un ni l'autre, pour forcer sa décision? Qu'il était libre comme l'air de partir ou de rester? Tâchez d'être raisonnable sur ce point, et je n'aurai rien à vous reprocher. » En même temps, il lui sourit avec intention, découvrant le clavier intact de ses dents. Les vagues inquiétudes de Germaine s'envolèrent comme une inutile fumée. Il y avait si longtemps que Philippe ne lui avait plus souri de ce sourire-là. Elle murmura « Vous avez raison. Personne n'a influencé cet enfant, ni vous ni moi. C'est bien lui qui a voulu s'en aller. Il l'a dit plusieurs fois calmement. Je m'en souviens très bien. » Et, avide d'intimité, de caresses, de bonheur, elle se rapprocha de Philippe et ajouta, frémissante, « Et maintenant qu'il a disparu, Philippe, vous ne prêterez plus à toutes mes paroles, à tous mes actes, un sens offensant pour vous. C'est lui qui était l'obstacle entre nous, n'est-ce pas? Dites-le-moi. » « Combien de fois ne vous l'ai-je pas déjà dit ? » affirma Philippe après un court silence. « Maintenant, je vais voir ce que fait Isabelle. Les derniers temps, elle était toujours flanquée de ce garçon. On ne pouvait plus l'approcher. » Germaine laissa le père entrer seul auprès de sa fille. Et un instant, elle prêta une oreille attentive à l'entretien, dont elle ne saisissait qu'une rumeur confuse. Elle avait craint que les explosions de chagrin de la petite fille, qu'elle avait eu tant de peine à calmer le matin, ne recommençassent à la vue de Philippe. Mais non, le dialogue se poursuivait paisible, amical. Dehors, le vent de pluie se faisait plus bruyant. Il sifflait à travers les arbres, lugubrement, mais Germaine, distraite, l'entendait à peine. Le dos appuyé au mur, elle s'abandonnait à la joie. Elle ne se souvenait pas d'avoir goûté, même dans les premiers temps de son mariage, une pareille plénitude d'âme. Un silence aussi complet de tout ce qui n'était pas sa vivante passion. Lucien avait disparu, et Philippe lui avait souri de l'ancien sourire aimant. Dans la chambre, peu à peu, la causerie du père et de la fille s'animait. Par moments, Germaine, étonnée, entendait la voix d'enfant résonner en phrases brèves, saccadées, et la basse de Philippe répliquait avec animation. Qu'est-ce qu'il pouvait bien se dire pendant si longtemps? Tout à coup, du dialogue jusque-là insaisissable, un nom se détacha, net et bref. À plusieurs reprises, Isabelle le répéta. « Lucien !» Les deux syllabes distinctes résonnèrent aux oreilles de Germaine comme un son de clairon. Elle tressaillit, et dans tous ses détails, la scène récente du départ de son fils d'adoption repassa sous ses yeux. Tout bas, à la dernière minute, elle l'avait interrogé sérieusement à l'oreille. « Lucien, mon enfant, est-ce vrai que vous voulez vous en aller ? Dites-le-moi encore une fois. C'est vous qui voulez vous en aller, n'est-ce pas ?» La pâleur du jeune garçon l'épouvantait. Elle était restée suspendue à ses lèvres, haletante d'anxiété. S'il allait faiblir à cette minute décisive, ce serait l'ancienne vie à recommencer, avec plus de heurts et de frottements qu'auparavant. Mais tout de suite, Lucien avait prononcé des mots rassurants. Il avait dit d'un ton ferme, « C'est moi, oui, c'est moi qui veux m'en aller. » Pendant que Joseph chargeait les malles sur la voiture, les adieux s'étaient précipités. Un baiser froid, rapide, avait à peine effleuré sa joue, et l'enfant qu'elle avait reçu en dépôt solennel des mains d'un père mourant avait disparu. Elle s'était trouvée seule en face du désespoir bruyant d'Isabelle. Cachée, on ne savait où pendant toute la matinée, la petite fille, arrivée trop tard pour voir partir Lucien, s'était mise à pleurer en criant des choses absurdes. « Moi aussi, je m'en irai. Dès que je serai grande, je m'en irai. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Qu'aurait dit Philippe de cette explosion de chagrin ridicule? Si souvent, en entendant le rire frais de sa fille, En voyant ses yeux luire de plaisir, il avait regretté tout haut le moment de faiblesse qui avait permis aux enfants, pendant la longue convalescence de Lucien devant aboutir à son départ, de se voir librement. Pour distraire Isabelle, Germaine l'avait emmenée dehors, et peu à peu, le mouvement et le plein air avaient apaisé l'étrange surexcitation de l'enfant. Elle avait d'abord marché sans rien dire, les cheveux au vent. L'atmosphère de ce matin d'automne était pesante. Très loin, le soleil apparaissait de temps en temps au fond des brumes, pâle lueur fugitive trouant le ciel gris, uniforme et triste. L'air était si lourd, si immobile, qu'au bout de leur tige flexible, pas une feuille ni une herbe ne tremblait. Oppressée par le silence obstiné de la fillette, Germaine avait fini par passer son bras sous celui d'Isabelle, et elle lui avait demandé « À quoi pensez-vous, mon enfant ?» D'un ton bref, la réponse était venue sur le champ. « Je voudrais voir la mer. » 3 mois auparavant, le même souhait avait été exprimé à Germaine dans les mêmes termes. Mais la fantaisie d'Isabelle ne traduisait qu'une curiosité naturelle, stimulée par le départ de son fidèle compagnon de jeu. Le désir de Lucien cachait autre chose. Au bout d'un instant, l'enfant avait repris du même ton bref. « Pourquoi est-ce que papa déteste ainsi Lucien ? Le savez-vous, maman ? Qu'est-ce qu'il lui a fait à papa, Lucien ?» Gênée par le regard questionneur de la fillette planté droit dans ses yeux, Germaine avait hésité, perplexe. Enfin, elle avait dit simplement « Vous dites des folies, Isabelle. Votre père n'aime pas Lucien autant que vous, qui êtes son propre enfant. C'est tout naturel. » « Mais à qui est-ce qu'il appartient alors, Lucien ? Est-ce à vous, maman ?»« Non, il est orphelin. » Et pour clore par un mot décisif la série de questions inutiles qu'elle sentait venir, elle avait ajouté d'un ton décidé « Ne pensez pas à ces choses pour le moment. Vous ne pouvez pas encore les comprendre. Quand vous serez plus âgé, elles vous sembleront très simples. » La fillette avait aussitôt quitté son bras. Et le visage tendu, presque contracté, elle était retombée dans le silence. Tous les efforts de Germaine pour l'arracher à son mutisme avaient été vains. Elle avait dû renoncer à la distraire, mais de toute la journée, elle n'avait pas osé l'abandonner un seul instant. L'unique manière de lutter avec Isabelle dans le cœur de son père était d'accepter l'enfant de toute son âme, comme elle n'avait jamais pu accepter Lucien. Elle s'y efforçait. Elle ne l'avait quitté qu'au moment où elle pouvait enfin espérer voir revenir Philippe. Dès que sa belle-mère l'eut libéré de sa surveillance, Isabelle avait fermé ses cahiers d'un geste résolu. Elle était allée coller son visage aux vitres, et elle aussi avait attendu le retour du voyageur avec une fiévreuse impatience. Philippe s'attarda presque 1 heure auprès d'Isabelle. Lorsqu'enfin il la quitta, il sortit si précipitamment qu'il frôla Germaine sans la voir. Elle murmura « Philippe !» Et elle le suivit dans le cabinet de travail où autrefois elle avait passé à côté de lui des heures si heureuses. Une expression de peine contractait si visiblement le visage de son mari que tout de suite le cœur de la jeune femme s'était mis à battre d'appréhension. Elle resta silencieuse en face de lui, attendant qu'il s'expliquât. Il dit enfin « Puisque vous étiez derrière la porte, vous avez entendu ce qu'Isabelle vient de me reprocher. » « Non, je n'écoutais pas. Et puis le vent fait tellement de bruit dans les arbres depuis un moment que même si je l'avais voulu, je n'aurais rien entendu. » Philippe eut un sourire froid. « Le vent ? Ah oui, je comprends. » Et il ajouta sèchement « Isabelle vient de me demander raison de mes sentiments pour Lucien, une fillette qui n'a pas 13 ans. Qu'est-ce que vous dites de cela ?» Elle répondit, tremblante « Je ne comprends pas comment Isabelle a osé. » Philippe l'interrompit « Moi non plus. Et il m'est impossible de croire que l'idée lui soit venue de questionner son père sur ses sympathies sans y être stimulé par quelque chose ou par quelqu'un. Qu'en pensez-vous ?
La jeune femme balbutia. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Philippe. Est-ce moi que vous soupçonneriez de l'avoir poussé ?»«
Je n'ai pas dit poussé, mais peut-être encouragé sans le vouloir. Que sais-je, moi ?
Ce serait très différent. »
On oublie quelquefois, en parlant à un enfant, qu'on s'adresse à un être incapable de comprendre à fond les choses et qui les interprète à sa façon.
La réalité offrait un si brusque contraste avec sa récente ivresse que Germaine resta un moment silencieuse, s'efforçant, avant de répondre, de rétablir l'équilibre perdu de ses pensées. Elle dit enfin, amère, « Vous me tourmentez, Philippe. Dites-moi clairement ce que vous me reprochez, que je puisse me défendre ou confesser mes torts. Je n'ai jamais pu aimer cet enfant comme j'aurais dû. Jamais, jamais. Maintenant qu'il est parti, allez-vous me poursuivre de son fantôme jour et nuit ?
Pourquoi ne pas vous expliquer clairement vous-même ?
Se récria Philippe vivement.
Voilà des semaines que vous ne me dites pas un mot de ce que vous pensez. J'aimerais mille fois mieux des reproches directs et précis, de la colère et des larmes, que cette attitude indécise où votre sentiment intime, le vrai, me glisse entre les doigts sans que je puisse jamais le saisir. »
Il traversa la chambre d'un pas nerveux et alla regarder dehors souffler le vent. De grands nuages, déchirés, couraient sur le ciel gris. Germaine le suivit.
« Cela vous exaspérait d'entendre parler de ce garçon ?»
dit-elle, les lèvres tremblantes.
« J'évitais exprès toutes les occasions de prononcer son nom devant vous. Mais puisque vous avez mal interprété ce silence, je vais vous mettre en deux mots au courant de tout ce qui concerne cet enfant. Vous ne pourrez plus me reprocher de me cacher volontairement de vous. Non, cela au moins vous ne pourrez plus me le reprocher. »
Elle poursuivit rapidement. J'avais un engagement à tenir au sujet de Lucien. J'avais promis au père, mourant, de veiller sur lui comme s'il était mon propre fils, de le garder jusqu'à sa majorité, moment où, si je me remariais, la fortune paternelle lui reviendrait tout entière. Je m'étais engagée à ne pas contrarier ses goûts et à le pousser, si possible, du côté des études. Autrefois, il aimait les choses de la nature. Il pouvait s'amuser pendant des heures à regarder aller et venir une fourmi. Mais plus tard, il est devenu indéchiffrable même pour moi. Je ne savais plus ce qu'il aimait, cet enfant, ni ce qu'il désirait secrètement. Et dans cette ignorance, je l'ai laissé partir. Il me semblait que, lui disparu, l'obstacle entre nous s'écroulait. Il est parti depuis quelques heures à peine, et déjà vous me reprochez l'attitude d'Isabelle. » Philippe réfléchit quelques secondes. Ses yeux noirs, frangés de longs cils d'ébène, restaient fixés sur le ciel. « Pourquoi avoir laissé planer sur le passé cet inutile mystère ? » dit-il enfin. « Pourquoi ne m'avoir pas dit cela plus tôt, tout simplement ?» Elle balbutia. « La vue seule de Lucien vous exaspérait. J'avais peur de vous déplaire, Philippe. Ne me reprochez pas cela. » « Je vous en prie. » En même temps, elle glissa une main craintive sous le bras de son mari. Philippe hésita, puis brusquement, il passa son bras autour de la taille souple de la femme et l'attira contre sa poitrine.
« Vous êtes folle de vous agiter ainsi, Germaine. À vous voir, on dirait que nous avons commis un crime. C'est absurde. Cet enfant, s'il se conduit bien, a une jolie carrière devant lui. » Il a voulu partir, il est parti, voilà tout. »
Et il se pencha pour chercher les lèvres de Germaine, mais il les effleura à peine et s'éloigna d'elle aussitôt. Il souffrait sourdement, sans s'expliquer où ni pourquoi. Germaine balbutia.
« Vous ne savez pas tout ce que vous êtes pour moi, Philippe. Ce n'est pas à Lucien que je pensais tout à l'heure. Oh non! Vous ne comprenez pas encore tout ce que vous êtes pour moi ?»
Et elle se tut.
Elle était heureuse d'un bonheur si complet qu'aucune parole ne pouvait l'exprimer. Philippe reprenait avec elle les allures d'autrefois.
« Voilà un temps fait pour dégoûter des voyages en mer !» dit enfin Philippe, indiquant de la main le ciel bas et tourmenté.
« C'est contrariant que ce vent se déchaîne justement aujourd'hui. »
Il ajouta sans transition.
« Avez-vous remarqué comme ce garçon a grandi pendant sa maladie ? Ce matin, j'ai constaté qu'il me venait à l'oreille. Vous lui avez dit naturellement qu'il sera indépendant de nous à sa majorité.
« Non.
Vous auriez dû le lui dire. »
Il réfléchit quelques secondes, regardant les nuages se déchirer, se poursuivre, s'éparpiller, puis il reprit.
« Ce vent est agaçant !»
Et il quitta la fenêtre. Germaine le suivit.
Tant que Lucien était sous notre toit, il y avait un abîme entre nous, Philippe, murmura-t-elle. Un abîme profond qu'il m'était impossible de franchir. Vous étiez souvent injuste, quelquefois cruel. Aujourd'hui, ce long supplice est fini.
Toute sa passion, si longtemps refoulée et muette, vibrait dans sa voix. Et Philippe la considéra entre ses cils noirs comme autrefois lorsqu'il l'avait aimée au début de son veuvage. Elle crut du moins sentir glisser sur elle cette ancienne caresse des yeux presque oublié. Quelques secondes, ils se regardèrent ainsi, les yeux dans les yeux, tandis que les bourrasques se précipitaient, couraient à travers la plaine avec des heurts, des éclats subis, et, dans la distance, un bruit sourd continu.
« Il y a une chose que vous auriez dû faire, Germaine, » dit enfin Philippe froidement.
« Vous auriez dû dire à Lucien les arrangements pris par son père. »
« Je l'aurais fait, » balbutia Germaine, « si vous ne me l'aviez pas vous-même défendu. »«
Moi ? Je vous avais défendu de communiquer à cet enfant les arrangements de son père ? Et quand cela ?»«
La nuit où nous sommes arrivés ici, dans le train, Lucien dormait vis-à-vis de nous, couché sur la banquette. Vous m'avez dit ?»
Philippe interrompit vivement.
« Dormait ou faisait semblant de dormir ? Oui, je me souviens. »
Le front coupé d'un pli mécontent, il continua. « Et en laissant partir ce garçon, sans l'éclairer, vous n'avez pas réfléchi que s'il ne dormait pas, comme c'est fort possible, il croit à présent que nous avons voulu le dépouiller. »«
J'ai toujours obéi à votre parole sans la contrôler, » murmura Germaine, tremblante.
« Vous n'êtes pas juste dans ce moment, Philippe. »«
Mais que diable !» s'écria Philippe violemment. « Je n'avais pas le dépôt de cet enfant, moi. Je n'avais fait aucune promesse à son sujet. Et quand j'ai dit ce que j'ai dit, je ne prévoyais pas que ce garçon aurait un jour la fantaisie de s'embarquer. Nos idées et nos décisions changent avec le cours des événements. Elles ne sont pas des blocs de granit immuables. »
Il poursuivit sèchement.
« Je me fie à votre sollicitude. Voilà mon tort. J'ignorais que vous n'aimiez pas cet enfant. Comment l'aurais-je cru ? Mais je commence à douter du témoignage de mes yeux. En vérité, j'en viens à croire que vous ne l'aimiez pas. »
Il la regarda quelques secondes, durement, puis il détourna la tête et répéta
« Non, en vérité, vous ne l'aimiez pas. »
Germaine continua de se taire. Elle luttait contre une envie de pleurer qui lui serrait la gorge. Jamais elle n'avait vu Philippe violent, exaspéré comme il venait de l'être. Et c'était la seconde fois depuis un quart d'heure qu'elle passait, sans transition, de l'ivresse de la joie au plus absolu des désenchantements. Tout ce qu'elle avait édifié d'une main hâtive sur l'apparente sécurité de son puissant désir s'effondrait avec fracas. Toutes ses anticipations de renouveau s'éparpillaient en mille débris. Philippe reprit d'un ton plus calme.
« Après tout, c'est fou de se tourmenter de ce que pense ou ne pense pas ce garçon. À Marseille, il trouvera une lettre qui lui dira les choses telles qu'elles sont, et tout sera dit. On ne peut pas se débarrasser de ce garnement. »
Germaine resta muette. Philippe se rapprocha d'elle, et sans aigreur, cette fois, il la stimula à parler.
« Tout à l'heure, quand je suis rentré de là-bas, Vous aviez mille choses à me demander, mais j'étais préoccupée de la jument. Il me semble que Joseph la néglige un peu depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous désiriez savoir ? Parlez librement, je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
« Je ne sais plus, » balbutia Germaine. « Vous n'avez que des paroles de reproche pour moi, Philippe, et cela prend toute mon attention. Folle, j'ai cru un instant saisir de nouveau l'ancien bonheur, mais il est déjà loin de moi. »
Philippe la dévisagea un moment, l'œil sombre, chargé d'animosité. Puis il alla de nouveau regarder par la fenêtre la course folle des nuages, et il dit froidement
« Nous allons avoir une vraie tempête, c'est évident, pourvu que cette carcasse de navire tienne la mer au travers de l'ouragan. »
Germaine devint blême. « Une carcasse, Philippe ?» Il soupira soulagé.
« Vous avez eu peur pourtant, Dieu merci !»
Et il la laissa pleurer. Elle sanglotait pour tout de bon cette fois, sans chercher à se retenir, et entre ses dents, elle hachait des mots entrecoupés.
« Vous me tourmentez sans raison. Si cet enfant... »«
Rassurez-vous, » dit Philippe précipitamment. « Après la sollicitude que vous avez montrée à ce garçon pendant des années et les soins dont vous l'avez entouré, votre insensibilité depuis qu'il a disparu me faisait mal. J'ai voulu voir jusqu'où elle allait, voilà tout. » Il ne court pas d'autre danger que ceux auxquels l'expose une traversée sur mer par un temps pareil. »
Tandis que Germaine pleurait, la tête cachée entre ses mains, il continua agressif.
« Depuis que vous ne le voyez plus, cet enfant est comme mort. Ce que je lui demandais, moi, c'était de déblayer le terrain, pas autre chose. Et cela m'exaspère d'entendre hurler ce vent furieux, justement aujourd'hui. Vous ne l'entendez même plus. »
Il fit un tour de chambre d'un pas impatient, puis il ajouta sèchement
« Nous restons enfermés dans cette chambre comme dans une cage. On étouffe ici. »
Et d'un geste brusque, il ouvrit la fenêtre. Des papiers s'éparpillèrent dans tous les coins. En même temps, sous une poussée du dehors, la porte s'entr'ouvrit, mais la violence du vent la repoussa brusquement. Isabelle cria du vestibule.
« Papa, je ne peux pas ouvrir !»
Philippe courut refermer la fenêtre et la petite fille entra. Elle se tint un instant hésitante sur le seuil. La chambre était si obscure qu'elle ne discernait rien. Elle murmurait
« Comme il fait noir ici! Il fait tout noir! Tout noir !»
Mais les yeux du père, accoutumés à la nuit, voyait très bien la robe blanche de la fillette se détacher sur le fond de ténèbres, et il la dirigeait de la voix. En tâtonnant, l'enfant traversa la chambre, et dès qu'elle eut rejoint son père, elle se jeta à son cou, colla sa joue fraîche à la figure échauffée et balbutia.
« J'avais peur dans cette chambre toute seule. Je suis venue, papa. Est-ce que le vent... Lucien... »
Doucement, le père détacha les bras noués autour de son cou.
« Lucien n'est pas plus exposé que les autres, » dit-il d'une voix contenue. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il n'y a aucune raison de se tourmenter à son sujet dans ce moment. Mais pourquoi restons-nous ainsi plongés dans l'obscurité? C'est stupide d'écouter souffler le vent dans cette nuit noire. Pourquoi rester dans ces ténèbres? Et puis on étouffe ici. Ouvre au moins la porte, Isabelle. »
Germaine sortit. Dès qu'ils furent seuls, Philippe prit dans ses mains la figure contractée de l'enfant, et à plusieurs reprises, il lui baisa le front. Encore quelques années de développement normal, et cette petite serait la vivante reproduction de sa mère. Il lui dit tendrement
« Comme tu me rappelles ta mère ce soir, jamais tu ne lui as autant ressemblé que ce soir. »
Elle demanda «
À ma vraie maman? À celle du portrait? »
Oui, à celle du portrait.
Une bourrasque passa sur la campagne, secouant les vitres dans leur cadre de chêne, et alla se perdre au loin dans un grondement sourd. Quand la rafale eut passé, l'enfant reprit, d'une voix vibrante de crainte ou de désir, ou de quelque chose d'ardent. Mais est-ce qu'elle aurait eu peur du vent comme moi ?
En même temps, elle fixa sur son père un regard attentif, inquiet, comme si cette question touchait à quelque débat mystérieux resté pendant entre elle et lui. Il réfléchit quelques secondes, scrutant les choses passées, puis il répondit lentement.
« Je crois qu'elle aurait eu peur comme toi.
Mais pourquoi me fais-tu cette question, Isabelle ?»
En ce moment, Germaine rentra, suivie de Joseph, qui apportait des lampes.
Philippe alla appuyer son front à la vitre. La fraîcheur du verre lui fut agréable. Il dit, au bout d'un moment,
« Décidément, j'ai trop chaud dans cette chambre fermée. J'ai besoin d'air. Je vais faire un tour dehors. »
Et comme Germaine allait se récrier, il la prévint.
« Qu'on ne me parle plus du vent aujourd'hui, de grâce. Voilà des heures que nous ne disons pas autre chose, et j'en ai vraiment assez pour ce soir. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas se débarrasser de ce garnement. »
Il sortit sans attendre de réponse, et bientôt la porte d'entrée retomba lourdement sur ses gonds. Chapitre 4. Dès qu'une première lueur d'aube glissa à travers les volets clos, le lendemain, Philippe se leva et descendit dans le parc. Depuis son installation définitive sur ce sol étranger, il avait prodigué chez lui les arbustes élégants, les fleurs fines et rares, tous les végétaux délicats que le climat humide et le sol fécond développaient plantureusement. Il était pressé de constater les dégâts que l'ouragan de la nuit aurait causés à ses plantations. Le vent était tombé, et du côté de la mer, l'épaisse voûte des nuages amoncelés à l'horizon se crevait par-ci par-là. Tout au fond de ces déchirures, de larges taches bleues, très claires, apparaissaient. Germaine, engourdie par sa longue nuit d'insomnie, avait laissé sortir Philippe sans lui parler. Elle regardait avancer au-dessus de sa tête le triangle de lumière dessiné sur le plafond par l'entrebâillement des volets, et elle songeait aux incidents de la veille, le cœur lourd et l'esprit tourmenté d'incertitude. Les reproches de Philippe avaient bourdonné toute la nuit à ses oreilles, comme un essaim de guêpes venimeuses, et plus elle y pensait, plus elle trouvait la réprobation de son mari acerbe et injuste. N'avait-elle pas rempli ses devoirs auprès de Lucien assez scrupuleusement pour tromper jusqu'à la clairvoyance de Philippe ? Pourquoi lui, qui avait toujours haï cet enfant ouvertement et sans raison, la blâmait-il aujourd'hui de ne pas avoir pu l'aimer elle-même comme son propre fils ? Si les engagements pris au lit de mort du père lui avaient quelquefois pesé, elle n'avait jamais trahi à personne cette oppression. Elle avait gardé Lucien auprès d'elle par respect pour sa promesse, bien qu'à la rigueur elle eût pu, sans causer aucun préjudice à l'enfant, le confier à d'autres. Lucien n'était pas sans parenté. Il avait, à Paris, un oncle à la tête d'affaires florissantes, un monsieur Roche qui aurait pu, sans se gêner, créer un avenir brillant au propre fils de son frère. Il est vrai que le capitaliste s'était franchement dérobé lorsque, poussée par Philippe, elle lui avait écrit autrefois pour l'intéresser au sort de l'orphelin. Il avait trois fils à établir avant de penser à caser ceux des autres. Il n'était pas le père de Lucien, ni son tuteur. Pour le moment, l'enfant était bien où il était, et il ne pouvait pas mieux faire que d'y rester. Plus tard, eh bien plus tard on verrait. Si le garçon se développait dans le sens des affaires, ce qui était fort douteux, son père n'y ayant jamais vu goutte, on reparlerait de lui. Germaine se souvint du sourire résigné de Philippe à la lecture de cette réponse catégorique. Mais il était très épris d'elle à ce moment-là. Son déplaisir ne s'était clairement manifesté que plus tard. La résistance passive qu'elle avait opposée depuis au désir persistant de Philippe de voir Lucien s'expatrier avait envenimé leur sourde dissension. Enfin, de guerre lasse, elle avait cédé à la tenace volonté de Philippe. Lucien était parti.
Mais depuis ce départ, au lieu de lui savoir gré de son obéissance, Philippe se montrait plus irritable, plus agressif que jamais. Tout à coup, par la fente des volets disjoints, un rayon de soleil entra. La demi-obscurité de la chambre s'éclaira d'une clarté rose. L'amère tristesse de la jeune femme s'adoucit. Elle se leva et se vêtit à la hâte. Un désir pressant de se rassurer à fond, de parler à Philippe à cœur ouvert, de renverser toutes les barrières qui le séparaient d'elle, de le reprendre tout entier comme elle l'avait possédé autrefois, venait de la saisir au milieu de son ardente anxiété. Maintenant que le fait était accompli, l'oubli viendrait. Il viendrait tout naturellement, par la simple force des choses. Oui, peu à peu, perdu dans la foule des incidents de la vie journalière, le départ de Lucien s'enfoncerait avec eux dans l'ombre du passé. Ce qui avait fait grincer si longtemps les rouages de l'existence commune ne serait plus qu'un souvenir lointain, insignifiant, inoffensif. Elle se hâtait, les mains tremblantes, secouées par une fièvre d'attente anxieuse. Voir Philippe, l'entendre, saisir dans l'expression des traits, dans l'œil noir au regard changeant, dans la voix au timbre si souvent dur, une impulsion à rattacher aux jours passés les jours à venir. Elle se hâtait, de plus en plus possédée par sa vivante passion. Elle chercha en vain Philippe dans toutes les chambres de la maison. Mais dès qu'elle descendit les marches du perron, elle l'aperçut dehors, examinant les dommages que le vent du sud avait fait subir aux arbres et aux arbustes d'essence délicate qui entouraient leur demeure. Des débris de toute nature jonchaient le sol, fragments de métal et d'ardoises arrachés à la toiture, moissons de feuilles et de branches fauchées en pleine vitalité, tout un amas de choses hétérogènes gisant pêle-mêle sur les parterres et au travers des sentiers fangeux. Du côté du levant, les nuages ouvraient au soleil d'étroites fissures, et des rayons isolés semaient la campagne de grandes taches mouvantes et lumineuses. L'air n'avait plus un frisson. D'un pas léger, Germaine enjambait les obstacles qui obstruaient partout le passage. Elle les franchissait sans paraître les voir. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle eut rejoint Philippe. Celui-ci l'accueillit d'un mot distrait sans la regarder. Il considérait la fenêtre d'Isabelle, dont, malgré l'heure matinale, les volets venaient de s'ouvrir tout grands. Derrière le rideau de mousseline, le visage de l'enfant se montra quelques secondes collé à la vitre, puis il disparut. Philippe se dirigea aussitôt du côté de la maison, et Germaine marcha à côté de lui, sans oser commencer l'entretien. L'œil anxieux fixé sur le profil énergique, elle marchait silencieuse. L'accueil froid avait glacé les mots sur ses lèvres. Pourtant, avant de gravir les degrés du perron et d'entrer dans la chambre où Isabelle allait les rejoindre, elle s'enhardit. Elle murmura, les lèvres tremblantes, « Philippe, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous éloignez-vous ainsi de moi ? Dites-moi au moins clairement ce que vous me reprochez. » Il se retourna brusquement et la regarda quelques secondes sans lui répondre. Elle portait une matinée mauve pâle, très claire, et son cou rond s'échappait, libre et blanc, d'une large échancrure de dentelle. Toute sa personne, menue, avait une apparence fine et frêle, mais la complexion était saine, solide. La masse épaisse des cheveux châtains s'entassait du côté droit. L'œil foncé, aux paupières étroites, s'ouvrait tout grand, inquiet, douloureux. À part l'expression du regard, c'était bien la même femme que celle rencontrée fortuitement 3 ans auparavant chez des parents de son ami Jacques. Rose et blanche au milieu des crêpes de son veuvage, comme elle l'avait séduit alors. Où s'était envolée la passion qu'elle lui avait inspirée autrefois? Il dit enfin, le front soucieux, « Pourquoi me faire toujours cette même question? Je ne vous reproche rien. » Et il gravit rapidement l'escalier. Dans l'embrasure de la grande porte-fenêtre, ouverte à deux battants, il venait d'apercevoir Isabelle. Vêtue de sa robe de flanelle blanche, la petite fille traversait la chambre si vivement qu'elle vint se jeter contre son père, sans le voir. Aussitôt, elle lui noua autour du cou ses deux bras maigres de fillette en croissance, elle se cramponna à lui de toutes ses forces, tandis que de gros sanglots étouffés la secouaient. Il la pressait contre sa poitrine, étroitement. « Isabelle, mon enfant, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu? Mais qu'as-tu ?» Longtemps, l'enfant pleura, suffoquée, sans réussir à prononcer un mot. Enfin, elle articula avec effort, « Pourquoi est-ce que Lucien est parti ?» Doucement, Philippe décrocha les deux bras qui le serraient à l'étrangler. Il prit par la main la fillette, déjà grandelette, allongée et flexible, et il entra avec elle dans la chambre. Des domestiques, vaquant au nettoyage matinal de la maison, circulaient dans les corridors et chuchotaient, étonnés. Germaine courut fermer la porte. Peu à peu, le chagrin bruyant d'Isabelle se calma. Philippe l'avait assise sur ses genoux et il lui parlait à l'oreille, tout bas, lentement. Mais tout en l'écoutant d'un air attentif, l'enfant gardait un visage sérieux, tendu, inapaisé. Ses lèvres serrées restaient muettes. Germaine écouta quelques instants le murmure monotone des mots se poursuivre sans interruption, tandis que, dans sa tête fatiguée, des pensées amères s'entrecroisaient. Mais, voyant que l'explication se prolongeait, et menaçait de durer jusqu'au départ d'Isabelle pour l'école, torturée d'impatience, elle alla jusqu'à la fenêtre et fixa son œil brillant sur l'étendue sans fin des champs. Elle comptait les minutes, les hâtait fiévreusement, le cœur plein d'un désir unique, violent. Forcer Philippe à une explication immédiate, nette et complète. Savoir clairement d'où venait l'exaspération contenue qu'elle percevait dans chacune de ses paroles. Se disculper à ses yeux une fois pour toutes et entièrement. Mais lorsque, enfin, l'heure désirée sonna, Philippe, au lieu de laisser Isabelle partir comme à l'ordinaire sous l'escorte de Joseph, fit atteler le phaéton et y monta à côté d'elle. Germaine resta seule. Tant qu'elle put l'apercevoir sur la route déserte, elle regarda fuir du côté de la ville le véhicule où si souvent, dans les premiers temps de son mariage, elle avait parcouru le pays en compagnie de Philippe. Puis elle rentra, cacha sa tête dans ses mains et pleura. Durant tout le trajet qui les séparait de la ville, Philippe et Isabelle n'échangèrent pas une syllabe. Le visage toujours tendu et triste, la fillette regardait droit devant elle, l'air sérieux, et le père la considérait de temps en temps à la dérobée, mais sans chercher à renouer l'entretien interrompu. L'attitude pensive d'Isabelle, si extraordinaire chez l'enfant gaie et remuante qui naguère remplissait de bruit la maison, paralysait l'habituel entrain de leur causerie à deux. La présence de Joseph les gênait aussi. Cet homme silencieux qui recueillerait chacune de leurs paroles semblait pour la première fois, au père et à la fille, un incommode témoin. Jamais cette course à travers la campagne riche et fleurie ne leur avait paru longue et monotone comme ce matin-là. Enfin, au bout de l'interminable perspective poussiéreuse, une des portes massives de la vieille cité se montra. Bientôt, ils se trouvèrent sur le pavé bruyant des rues. Philippe ralentit l'allure de la jument. Il cheminait lentement le long des maisons fermées, lorsque tout à coup, au contour d'une rue, un coupé de médecins croisa de tout près leur voiture. Philippe murmura « C'est Jacques !» En même temps, il fit des signes de la main et cria « « À tantôt, je viendrai te voir. » Une voix de basse répondit « C'est bon, mais pas avant 3 heures. » Et le coupé disparut. Pendant une seconde, Une tête d'homme s'était penchée à la fenêtre. Une tête blonde, à la chevelure massive, dominant une figure lumineuse. À sa vue, tout de suite, l'enfant avait souri. Et elle aussi avait fait des signes de la main. Dès qu'elle cessa de voir le véhicule, elle retomba dans sa torpeur. Philippe dit « Jacques est devenu ton ami presque autant que le mien depuis quelque temps. » Et d'un ton encourageant, espérant enfin la faire parler, il sourit et ajouta « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Elle répondit sérieuse « Oh oui, je l'aime bien. Il est bon. » Et jusqu'au moment où Philippe la déposa à la porte de son école, elle ne dit plus un mot. Il la regarda disparaître dans le grand bâtiment où, massés au fond d'une cour, une nuée de fillettes s'ébattait avec des cris, des rires, un pépiment d'oiseaux en liberté. Puis il descendit de la voiture et la renvoya à la maison. Tout de suite, il se sentit soulagé d'être seul. Il avait toute une heure devant lui, et il se mit à errer le long d'un des étroits canaux qui enserrent de bras humides l'antique cité. Le soleil allumait des flammes aux vitres, et l'eau croupissante et profonde luisait, elle brillait comme du verre, reproduisant fidèlement la façade plate des maisons démodées, leurs pignons pointus, la décadence et la tristesse de la ville abandonnée. Philippe se remémora sa joyeuse arrivée dans le pays étranger, où le joug d'une médiocre destinée avait cessé de peser sur sa tête. Il se souvint aussi des temps difficiles qui avaient suivi la mort de son père, mort brusque, le laissant seul au monde, presque sans le sou et sans autre bagage pour la conquête de son pain que des études de droit à peine achevées. Mêlé à la cohue des autres chercheurs d'emploi, il avait longtemps heurté à toutes les portes, sans succès. Et de guerre lasse, désespéré, il venait justement d'accepter un chétif poste de secrétaire quand, du fond de ce pays plat, mordu par la mer, lui était arrivée l'offre inattendue de diriger le vaste domaine qui aujourd'hui lui appartenait. Il avait 30 ans. Lorsqu'une tante, qu'il n'avait plus revue depuis sa toute petite enfance, lui proposa de but en blanc cette position inespérée. Elle faisait plus que la lui proposer. Elle venait de perdre son fils unique, et le cœur déchiré, elle suppliait Philippe, en sa qualité de plus proche parent du défunt, de la délivrer d'un fardeau devenu trop lourd pour elle. Pendant 2 ans, elle avait traîné à côté de Philippe une vie décolorée, le laissant libre de toutes ses actions, désintéressé de tout ce qui ne touchait pas exclusivement son chagrin. Elle était morte, enfin, inconsolée, abandonnant à son neveu une belle fortune, tout en terre sur un sol plantureux. Quelques mois après cet événement, Philippe était allé chercher, dans la petite ville de province où il était né, la mère d'Isabelle, que son âme neuve de garçonnet avait autrefois adorée, et dont sa mémoire d'homme conservait l'image parmi ses meilleurs souvenirs. Il avait vécu 2 ans dans l'ivresse d'un sentiment pur et partagé. Au sortir de sa vie d'étudiant, où tant de choses malsaines se humaient dans l'air, la paix de son ménage l'avait pénétré d'une félicité intense. Il avait appris à aimer, en vérité, ce sol plat où s'alimentaient ses abondantes moissons. À côté de sa première femme, la tranquillité sereine de son ciel sans orage ne lui avait jamais paru pesante ni monotone. À la fin de la 2e année, l'enfant impatiemment désiré était venu au monde, mais en coûtant la vie à la mère. Philippe avait sincèrement pleuré sa jeune femme pendant 4 pleines années, adorant tous les jours davantage la petite fille blonde, dont les traits fins, le teint rose, le regard bleu, rappelaient d'une façon si saisissante la mère. Il avait enfin rencontré Germaine, et possédé d'un ardent désir de recommencer sa vie heureuse d'autrefois, il avait cédé au caprice que la peau blanche de la jeune femme, le teint éclatant de fraîcheur au milieu du deuil profond, lui avait inspiré. Mais pas plus que cette eau morte, en reflétant l'architecture d'un temps fini, ne redonnait la vie à une époque disparue, pas davantage les contours de sa vie extérieure ne lui avaient rendu l'âme de son passé. Un son de cloche l'arracha enfin à sa rêverie. De la tour élancée, dominant la place principale de la ville, une grêle de notes ailées s'échappait, un joyeux carillon qui anima un instant de sa gaieté le pesant sommeil de la ville. Philippe hâta le pas et se dirigea du côté de la gare. Quelques heures plus tard, de retour de son court voyage, il se rendait hâtivement chez Jacques Isolant. Jacques l'attendait depuis une demi-heure et commençait à s'impatienter. Il fit asseoir son ami dans le fauteuil où il installait ses malades. Lui-même, debout, rangeait sur son bureau des papiers épars. Il les empilait les uns sur les autres. La lumière frappait en plein son visage intelligent et la masse épaisse de ses cheveux cendrés. Il était grand, carré d'épaules, robuste. Quand il eut fini son rangement, il s'assit en face de Philippe et dit « Maintenant, nous avons toute une heure à nous. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas bonne mine. » « Un peu de fatigue, » dit Philippe froidement. « Je n'ai pas assez dormi cette nuit, voilà tout. » « Où allais-tu ce matin avec Isabelle ?» Et sans laisser à Philippe le temps de parler, il continua. « Comme elle ressemble à sa mère! Jamais cela ne m'avait frappé comme aujourd'hui. Elle avait tout à fait l'air sérieux et méditatif de sa mère. « Elle lui ressemble trop !» balbutia Philippe. « Souvent, cela me fait mal !» Ce n'était pas la première fois que Philippe faisait allusion aux déceptions de son nouveau ménage. Et le jeune docteur avait parfaitement saisi, dans l'exclamation douloureuse, l'intention malveillante visant Germaine, mais il ne la releva pas. Philippe était son aîné de 10 années. C'était à son appel qu'il avait quitté l'encombrement de Paris et une clientèle à peu près nulle pour venir s'établir dans un milieu où le crédit de Philippe et son argent lui avaient permis de se faire une place. Il y avait longtemps qu'il avait remboursé à son ami toutes ses avances pécuniaires, mais sa dette morale vis-à-vis de lui était demeurée la même. Il resta absolument silencieux. Une gêne plana un instant entre ces deux pensées qui se croisaient sans vouloir s'étreindre. Puis Philippe reprit d'un ton indifférent. « À propos, tu sais que Lucien nous a quittés. Il est parti hier matin. Il ira jusqu'à Marseille rejoindre le bateau pilote. S'il travaille, s'il se conduit bien, il a une jolie carrière devant lui. » Il s'interrompit une seconde et ajouta sans laisser à Jacques le temps d'intervenir. « Je ne sais pas si tu as su qu'avant sa maladie, le jour même de sa belle équipée pour aller voir la mer, il a exprimé nettement le désir de s'embarquer. Une fois guéri, il est parti, voilà tout. Ce qui m'ennuie, c'est qu'Isabelle s'occupe de ce départ comme si ce garçon était le centre de sa vie. Le vent qui a soufflé cette nuit l'a empêchée de dormir. Elle était blanche comme un linge ce matin, et pour la tranquilliser, je suis allée jusqu'au port. Je compte sur toi pour lui faire entendre raison quand tu viendras. Mais c'est à peine si elle m'écoute. Je ne sais pas ce qu'elle a. « Tu me surprends beaucoup, » dit Jacques après un silence. Lucien ne m'a jamais dit un mot de son goût pour la mer. Il paraissait s'intéresser aux choses de la nature. Il avait récolté tout un herbier, qu'il a classé par famille et divisé en groupes distincts. C'était vraiment très bien. Je ne comprends rien à ce brusque changement d'idée. Autant dire, suggéra Philippe froidement, que c'est moi que tu soupçonnes de l'avoir chassé. Ne te gêne pas. « Dis-le seulement tout haut. J'aime mieux savoir à quoi m'en tenir. » La figure ouverte de Jacques s'assombrit. « Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui, Philippe, » dit-il après un silence. L'idée de te soupçonner d'avoir participé d'une façon quelconque au départ de cet enfant ne m'est pas même venue. À quoi penses-tu ? Et il hésita. La tristesse de Philippe, son injuste accès d'humeur, l'oppressait péniblement. Il fut sur le point de le questionner, mais, sûr de trouver Germaine à la base de son irritation, il se contint. Philippe était mal préparé à des luttes d'intérieur. Son passé ne l'avait pas accoutumé aux heurts d'une nature étrangère à la sienne. Mais sur ce point, il devait savoir se taire et accepter, tel qu'il était, le sort qu'il avait lui-même choisi. Peut-être le départ inopiné de Lucien était-il cause du craquement qui semblait s'être fait entre les époux. Mais pourquoi donc ce pauvre enfant effarouché, qu'il avait appris à connaître pendant sa grave maladie, s'était-il brusquement décidé à s'en aller vivre une vie d'aventure si étrangère à ses goûts? Il demanda enfin. « Ne m'as-tu pas dit un jour que le père de Lucien a assuré son avenir à partir de sa majorité ?»« En effet, » dit Philippe vivement, « mais Germaine a négligé de le lui dire. Avec toute sa sollicitude extérieure, elle n'avait pas ça d'intérêt pour ce garçon. » Il fit claquer le pouce et l'index de sa main gauche. Sa figure prit une expression dure et dédaigneuse. Il ajouta au bout d'un instant, « À sa première étape, il sera averti. Je ne le dépouillerai pas, sois tranquille. » Et il se leva. La sympathie dont son cœur était avide lui faisait défaut. Jacques ne voulait pas le comprendre. Au nom de Germaine, il prenait un air distrait et demeurait muet. Jacques se leva aussi. « Attends-moi une minute, » dit-il. « Nous sortirons ensemble. » Souple et agile, il circula quelques secondes dans la vaste pièce pleine de lumière, tandis que Philippe le suivait des yeux sans parler. Ses préparatifs terminés, le jeune docteur se retourna et dit en souriant, « À présent, si tu veux, nous irons. » Ils s'en allèrent du côté de la campagne déserte. D'étroits bras d'eau luisant au fond des berges resserrées sillonnaient de filets lumineux la plaine monotone. Une immobilité de cimetière pesait sur cette partie extérieure de la ville. Philippe battait le sol du bout de sa canne, envoyant de petits cailloux dans l'eau morte. Les projectiles crevaient d'un trou noir la surface unie, et l'eau se refermait sur eux en frémissant. Philippe surveillait leur chute et leur disparition, cherchant à donner à sa pensée une forme où ne perça pas l'amertume de son cœur. Enfin, il dit froidement, « À quoi bon parler davantage? Tu ne veux pas m'écouter. Ce que j'aurais voulu te faire comprendre, c'est l'influence qu'exerce sur nous, à la longue, une présence qui nous heurte tous les jours, sans cesse. On ne sait plus à la fin ce qu'on pense, ni ce qu'on voudrait, ni ce qu'on croit. » Jacques tressaillit. Brusquement, la pensée que Philippe avait consentie au départ de Lucien pour complaire à Germaine le poignait d'une appréhension aiguë. Si, entraîné par une influence quelconque, Philippe avait comploté l'exode de cet enfant, quelque chose d'ignoré avait vécu dans son cœur, quelque chose de bas qui avait échappé jusque-là à la clairvoyance de l'amitié. Il répondit enfin, attristé, « Je ne comprends pas bien ce que tu dis sans doute, Philippe. Jamais je ne croirais que, pour obéir au désir de qui que ce soit, tu aies consenti à faire partir, contre son gré, un malheureux enfant sans défense. Si c'est cela que tu veux dire, alors, en vérité, je... Mais achève donc !» insista Philippe violemment. « De tout ce que tu penses pendant que tu y es... Va, va ! C'est ma faute à moi, n'est-ce pas, si cet enfant n'a pas trouvé auprès de sa mère adoptive un bonheur suffisant à lui faire oublier les contrariétés, les petits ennuis qui se trouvent sur le chemin de chacun. Moi, je me fiais à la sollicitude de Germaine. J'y croyais fermement. Quand je l'ai vu consentir à ce départ sans protester, j'ai cru que le désir exprimé par ce garçon était sincère. Pourquoi en aurais-je douté ? Mais aujourd'hui, vraiment, je ne sais plus. Et pour Germaine, c'est comme si cet enfant n'avait jamais existé. Elle ne perd pas un instant de vue son désir personnel. Elle ne pense pas une seconde à autre chose. Et elle me poursuit de comparaisons désagréables entre le passé et le présent. Cela m'exaspère à la fin. Jacques garda quelques secondes un silence pensif. À travers les mots, il venait d'entrevoir clairement l'incapacité de Germaine à faire plier la volonté de son mari devant ses caprices. L'irritation de Philippe cachait donc autre chose que ce que ses paroles exprimaient. Et l'ami, surpris, luttait pour dissimuler sa pénible impression. N'était-ce pas à Philippe qu'il devait d'avoir pu offrir à sa mère un asile et du pain? Dans le doute où il se trouvait, il ne se sentait pas le droit de faire à son aîné de tant d'années des observations offensantes. Il répondit enfin, un peu froid, « Il me semble qu'au lieu de m'initier au débat de ton ménage, auquel je ne peux rien, il vaudrait mieux s'occuper de rappeler cet enfant, si, comme tu as l'air de le croire, vous l'avez laissé partir sans être absolument sûr de ses désirs. Jusque-là, Philippe, si je te connais bien, tu n'auras pas un instant de tranquillité. Et maintenant, adieu, je suis un peu pressé aujourd'hui. Permets-moi de te quitter. » Mais voyant la figure sombre de Philippe se contracter davantage, il ajouta d'un ton plus amical, « Je viendrai te voir demain. Je verrai aussi Isabelle. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter la vive amitié que ta fille me témoigne depuis quelque temps. Avec ce souvenir du passé à côté de toi, tu n'as pas le droit de te plaindre de ton sort. » « C'est cela, dit Philippe vivement. Viens, tu lui parleras, et tâche de lui faire entendre raison. Jamais sa mère n'a eu avec moi de ces accès d'humeur. Je ne comprends pas ce qu'elle voudrait, et je ne sais plus que lui dire pour la contenter. Elle ne me répond que par monosyllabes. Qu'est-ce qu'elle voudrait? Tâche de le lui extraire. » Quelques minutes plus tard, le jeune docteur, longeant en sens inverse le canal qu'il avait suivi avec Philippe, s'enfonçait en pleine campagne. Il avait le cœur déçu, et tout en se hâtant, il méditait tristement sur le sort du pauvre enfant qui s'en était allé seul, au-devant d'une destinée peut-être antipathique, pour obéir à des exigences incompréhensibles. En quoi la présence de ce garçon timide et silencieux gênait-elle la vie de Philippe et de Germaine? Rien n'excuserait l'injustice, la cruauté d'une pareille expulsion, si vraiment elle avait eu lieu. Non, pas même l'exaspération de deux êtres qu'un lien trop étroit blesse partout à la fois, et qui, pour le détendre, se débattent comme ils peuvent. Il ne secoua ses attristantes préoccupations que lorsqu'il toucha enfin le but lointain de sa course. Une maison isolée se dressait tout près de l'eau. Il entra sans sonner, gravit en courant l'escalier familier, et comme il atteignait le palier, une porte s'ouvrit doucement. La silhouette massive d'une femme corpulente se dessina sur le clair-obscur de la muraille, et Jacques, anxieux, interrogea. « Eh bien ?»« Cela va mieux, monsieur le docteur. Elle nous a reconnus tous les deux, son père d'abord, et puis moi. » « Ah !» Et tandis qu'il pénétrait dans la chambre sur les pas de la mère, une joie le réconforta. L'enfant chétive, qu'il avait disputé à la mort avec une énergie si obstinée, vivrait. Pour un espace de temps indéterminé, il avait renoué le fil ténu où s'enchaînaient des jours sans cesse menacés. Ce triomphe inespéré, sans bruit ni tapage, suffit à le rasséréner. Et jusqu'au moment où, tard dans la soirée, il se retrouva à la porte de sa demeure, le prolongement de cette joie l'accompagna. L'accueil de sa mère acheva d'effacer de son esprit toute trace de tristesse. Il vint s'asseoir à côté d'elle, en face de la fenêtre ouverte, tandis qu'elle disait, affectueuse, « Jacques, j'ai cru que tu ne rentrerais jamais ce soir. Sais-tu que 11 heures viennent de sonner ?»« Philippe est venu me voir, mère. Cela m'a pris du temps. » Ensuite, je suis retournée à pied chez la petite Fiche. « Vous savez comme c'est loin, mais je suis content d'y être allé. Elle va mieux. Pour le moment, elle est hors de danger. » Sur la pâleur du ciel, l'arc mince de la nouvelle lune brillait. Un « ouh » de bêtes aquatiques montait des jardins, notes solitaires frappant l'air à intervalles réguliers. Sur la ville, sur ses eaux dormantes, sur l'étendue des champs cachés sous les vapeurs, le calme de la nuit régnait, et dans la chambre où l'obscurité s'était faite, un silence s'était établi. À côté l'un de l'autre, Jacques et sa mère étaient heureux d'un bonheur sain et solide que le fracas de démonstrations bruyantes ne troublait jamais. Ils se turent longtemps, écoutant le « ou, ou » de la bête invisible se poursuivre infatigablement, et suivant des yeux sur le ciel serein la course lente de la nouvelle lune. La mère dit enfin « Tu m'as laissé trop longtemps seule ce soir, mon enfant. Quand je reste ainsi livrée à moi-même, je ne peux pas empêcher le retour des mêmes pensées. J'ai beau faire, elles m'obsèdent malgré moi. Je ne peux pas les chasser. Ah, que j'aimerais, avant de m'en aller, te voir une famille, une femme et des enfants. » « Alors, mère, dit Jacques vivement, c'est que vraiment la solitude de vos journées vous pèse. Non, Jacques, non, je ne demanderais pas mieux que de continuer à vivre comme nous vivons. Ah oui, si je pouvais toujours rester avec toi, je ne parlerais pas d'autre chose. Mais les jours passent, ils s'en vont. Que deviendras-tu quand tu seras tout seul, plus tard ? Comme si le froufrou des choses qui passaient pour ne plus revenir la frôlait de tout près, elle se tut un instant, puis elle reprit. « Je me reproche souvent d'avoir consenti à te suivre ici. J'aurais dû avoir plus de courage. J'aurais dû résister à ton désir. J'aurais dû rester chez Valentine. » Dans la pénombre, elle distinguait très bien la carrure vigoureuse, le front large, la barbiche pointue et blonde de son fils. L'enfant qu'elle avait porté il y avait si longtemps dans son sein inquiétait encore aujourd'hui sa sollicitude. Bien que l'idée de partager avec quelqu'un la part si grande que ce fils de prédilection lui avait faite dans son cœur la fit souffrir sourdement. Il n'y avait pas de jour où l'obstination de Jacques à rester seul ne la tourmenta d'une autre manière. Que deviendrait-il quand elle l'aurait quitté? Oui, que deviendrait-il sur ce sol étranger, où, grâce à Philippe, leur bien-être s'était édifié? À part Philippe, il ne comptait pas un seul ami, tel que les façonne une communauté d'expérience au début de la vie. Mais Philippe avait une famille, lui. Une petite patrie s'était reformée autour de lui. La sensation déprimante de la solitude ne l'atteindrait jamais. Ah, si seulement elle avait eu le courage de rester chez Valentine, en simulant un désir qu'elle n'avait pas, peut-être le poids de l'isolement aurait-il eu, à la longue, plus de force que tous ses conseils, et Jacques se serait-il décidé tout seul à suivre l'exemple de Philippe. Elle songea un instant au jour où, impatientée de ses atermoiements sans fin, ce fils si tendre était venu voir de ses yeux ce qui la retenait si longtemps loin de lui malgré ses pressants appels. À ce jour, le plus beau qu'elle eût vécu, où il l'avait enlevée de force sans vouloir écouter ses explications. En vain, elle avait essayé de lui faire comprendre qu'elle avait remis entre les mains de son gendre tout ce qu'elle possédait pour vivre, et que, la somme modique s'étant engloutie depuis longtemps dans le fond roulant de la maison, elle n'avait rien d'autre à faire désormais qu'à rester là où elle était, sans penser à en jamais bouger. Il n'avait rien voulu entendre. En face de cette obstination, les mains tremblantes posées sur les larges épaules de son fils, elle l'avait enfin interrogé les yeux dans les yeux. C'est que, si j'allais te gêner, toi aussi, j'en mourrais. À côté de Jacques, elle avait retrouvé bien vite sa dignité de mère. Ses tendresses, ses fiertés, ses ambitions s'étaient réveillées aussi vivaces que lorsque l'enfant tout petit s'appuyait sur elle en s'acheminant vers la vie. Elle considérait attentivement la silhouette vigoureuse, la masse solide et puissante du fils qu'elle avait nourri de son lait, et il lui semblait beau et désirable. Se trouverait-il une seule femme qui hésitât à lier sa destinée à celle de son Jacques? Elle dit enfin, pressante, « Tu n'es pas fait pour vivre seul. Tu ne te connais pas à fond. Ce que je voudrais, c'est te voir entouré d'une famille, comme Philippe. » Jacques se récria vivement. « Comme Philippe? Si vous l'aviez entendu aujourd'hui !» Mais il s'interrompit brusquement, se leva et alla s'appuyer au linteau de la fenêtre. Les confidences pénibles de Philippe ne lui appartenaient pas. Il réfléchit quelques secondes, les yeux fixés sur la nouvelle lune. Le mince croissant, très brillant, étreignait le vide. Et Jacques, distrait, cherchait en vain à distinguer la rondeur du globe, tandis que des souvenirs amers, qu'il ne voulait pas non plus trahir, s'agitaient, pêle-mêle, réveillés par la sollicitude maternelle. Enfin, il vint se rasseoir auprès de sa mère et dit simplement « Figurez-vous, mère, que Lucien a quitté la maison de Philippe. Il est parti hier pour Marseille. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu nous dire adieu. Peut-être au dernier moment n'aura-t-il pas eu le temps. » Madame Isolant garda le silence. Très souvent, lorsque le jeune garçon gauche, timide et triste, venait prendre congé d'elle, le souvenir de son propre sort chez son gendre avait effleuré sa mémoire. Un frisson l'avait secoué. Mais ce rapprochement était une insulte pour Philippe. Elle l'avait toujours repoussé avec indignation. C'était Philippe qui avait fait à Jacques une destinée large et facile. C'était à Philippe qu'elle devait elle-même de vivre des jours heureux. Elle dit enfin avec hésitation, « Peut-être la belle-mère de cet enfant ne l'aimait-elle pas comme elle l'aurait dû. Il m'a toujours semblé que quelque chose le rongeait. » Jacques hésita. Il lui paraissait injuste de laisser porter à Germaine seule le poids des soupçons de sa mère. Cependant, il ne put pas se décider à accuser ouvertement Philippe. Pendant quelques secondes, le « ouh » plaintif monta des jardins plus fort et plus distinct, et dans la chambre, le tic-tac de l'heure cadença le silence plus bruyamment. Tout à coup, le timbre vibra. 12 coups pressés frappèrent le métal en se précipitant, et au même instant, les cloches du carillon jetèrent au vent une grêle de notes ailées. Le tapage de cette musique aérienne plana très haut dans l'espace silencieux, puis brusquement il s'éteignit. La mère se leva. Minuit ! Il était temps que Jacques allât se reposer. Elle murmura « Le pauvre enfant, oui, certainement quelque chose le rongeait. » Et sans rien ajouter d'autre, elle prit congé de son fils et sortit. Dès qu'elle eut fermé la porte, Jacques se leva, alla s'accouder à la galerie du balcon et s'abandonna à ses souvenirs. Des vapeurs traînaient sur la terre humide, et l'arc effilé de la lune les éclairait mollement. Mais la rondeur du globe restait invisible. Distraitement, Jacques s'efforçait en vain de la découvrir. Se lier à une femme, après le choc qui avait troublé en lui la source des illusions saines, jamais. Non, pas même pour satisfaire le désir de sa mère, ce désir ardent toujours prêt à se manifester. Il ne pourrait oublier la blessure d'autrefois. Des ondes invisibles venaient du passé l'envelopper d'amertume, comme pour le défendre de la pression maternelle. Non, non, même pour effacer la seule dissidence de sentiment qui le séparait de sa mère, il ne pouvait pas s'exposer à une nouvelle expérience semblable à la première. Aujourd'hui, celle qu'il avait tant aimée avait cueilli le fruit de sa félonie. Épouse et mère, elle savourait sans doute son opulence à pleines lèvres avec l'appétit brutal qu'il avait vu briller dans ses yeux, Le soir, où elle avait froidement comparé devant lui les chances d'un avenir douteux et lointain avec la certitude d'un sort brillant immédiat. Se lier à une femme après cette cruelle déception, non. Pour réunir et ranimer les débris de son cœur trompé, il faudrait un être créé tout exprès, une fée, une créature qui n'existait pas. Toutes les femmes qu'il rencontrait le laissaient indifférent. Il n'avait pas besoin d'elles. Aucun vide cruel ne tourmentait sa vie, et l'emploi des heures fugitives ne lui pesait jamais. N'avait-il pas son foyer, sa mère, Philippe? Et depuis quelque temps, sans qu'il pût comprendre ce qui avait donné lieu à l'éclosion subite de ce sentiment vivace, la fille de Philippe ne le réjouissait-elle pas aussi par le témoignage quotidien d'une amitié de plus en plus expansive? À cette pensée, les impressions pénibles que l'insistance de sa mère avait un moment tirées de l'oubli perdirent leur acuité. Bientôt, toute trace de trouble au sujet du passé disparut, et, brusquement, le souvenir de son récent entretien avec Philippe lui revint, lancinant. Il murmura à plusieurs reprises « Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi ?» Et son esprit attristé alla chercher l'enfant, emporté contre son gré, vers des choses et des pays nouveaux. Il devait être déjà bien loin sur la mer immense. Dehors, le « ou-ou » triste de la bête invisible continuait, obsédant. Sur le ciel vide, froid, le demi-cercle de la lune se taillait durement. Les yeux distraits de Jacques s'attachaient, obstinés, à ce fil d'argent qui s'acheminait vers les vapeurs de l'horizon. Et tout à coup, il se souvint que le soir, où, plein de regrets et de dégoûts, il était sorti pour la dernière fois de chez sa fiancée, un croissant de lune souriait aussi au-dessus de l'agglomération des bâtiments de Paris. Mais ce soir-là, la rondeur du globe se dessinait très visible sur le ciel bleu.